Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahi la yawmiddin wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma ya kareem, Rabbi zidna ilma ya kareem, Rabbi zidna ilma ya kareem, Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mes chers frères, la dernière fois qu'on a fait le dars de sira, on avait vu les qualités de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était reconnu de tous et qui fait que notre prophète alayhi salatu wa sallam a eu une jeunesse exemplaire. Et au moment de se marier, tous les Quraysh étaient unanimes sur le fait que le prophète alayhi salatu wa sallam méritait une femme comme Khadija radiallahu anha, une femme de cette noblesse. Notre prophète alayhi salatu wa sallam à presque 40 ans. Et quand on parle de 40 ans, c'est synonyme de la prophétie. Synonyme de la prophétie. Le prophète alayhi salatu wassalam est en train de se renforcer spirituellement. Il est à la recherche de l'unicité d'Allah. Il ne faut pas oublier que la religion qui existait dans la péninsule arabe, c'était celle de quel prophète? Ibrahim alayhi salam, c'était la religion de Ibrahim alayhi salam qui était une religion de tawhid, d'unicité d'Allah. C'est ensuite qu'on a déjà expliqué ça, comment les Arabes se sont déviés du droit chemin, et ils ont pris des idoles et ainsi de suite. Le prophète alayhi salatu wassalam ressent de plus en plus d'aversion pour les idoles, la consommation d'alcool et tout ce que, malheureusement, qui était présent dans la société. Et donc il prend ses distances, tout en ayant un comportement irréprochable. Il prend ses distances par rapport au péché de son peuple. Et ça, c'est également une leçon de sagesse. Une leçon de sagesse. Si une personne de la communauté ou même de la famille, d'accord, malheureusement, se distingue par un péché omniprésent, ça peut être... Une personne m'avait posé une question dernièrement, il me dit, voilà, je suis invité chez telle personne, mais dans le cercle familial, il y a Foulan, une personne qui est en concubinage avec une jeune fille. Ils ne veulent pas se marier, ils se fréquentent. Et le concubinage, en arabe, on dit comment? Zina. Il n'y avait pas besoin de tirer un grand mot concubinage en cinq syllabes. C'est zina. Beaucoup, c'est très clair. Il me dit, ben, est-ce que voilà, je peux aller à cette invitation, ainsi de suite. L'intelligence du croyant, c'est d'avoir de l'aversion pour le péché que la personne accomplit, et non pas pour la personne. Donc, dans la mesure du possible, faire le rappel, garder un bon comportement, mais ne pas approuver, ne pas cautionner, c'est-à-dire qu'il y a un juste milieu entre l'extrême, c'est de quitter toutes les personnes qui font des péchés. Alors on se retrouverait un peu seul aussi, hein, d'accord? Peut-être qu'on se quitterait nous-mêmes, parce que nous aussi on est dans les péchés, on ne se regarderait même plus dans un miroir. Et l'autre excès, c'est de dire non, tout ça n'est pas grave, ça, là les grands, les pardonneurs, ça aussi c'est un grand écart qui n'est pas possible. Et de cautionner, de valider tout le monde de le haram, de le zéro, d'accord? Donc le prophète alayhi salatu wassalam prend de la distance avec son peuple tout en gardant un excellent comportement. Et les savants disent la piété ne peut pas se mélanger avec les péchés endurcis. Quand quelqu'un a, mashallah, il est dans une spirale positive de la spiritualité, il a envie de se rapprocher d'Allah, dans son cœur, il n'arrive plus à fréquenter, bien sûr, les lieux de péché, la question ne se pose même pas, mais il n'arrive plus à fréquenter les gens qui prennent un autre chemin. Les gens qui persistent dans le haram, il y a quelque chose dans ton cœur. Ce n'est pas de l'orgueil, pas de la fierté, rien, mais c'est que ton cœur n'accepte pas de voir des gens de la désobéissance ouverte. La désobéissance, je parle bien de la désobéissance ouverte. Maintenant, ce que les gens font chez eux, ça, on n'a pas à juger, on n'a même pas à enquêter, on n'a même pas à essayer de savoir. Donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, médite, réfléchit énormément et il ressent le besoin. En fait, il ressent le besoin. Allah met le besoin de son cœur. Je reformule. Allah met le besoin de le cœur du prophète, alayhi salatu wassalam, non seulement de prendre des distances avec une société qui est corrompue, mais également le besoin de s'isoler et de réfléchir au din original, à la religion originale, le tawhid apporté par Ibrahim alayhi salam. Et il réfléchit à la grandeur d'Allah. Réflexion sur le but de notre création, sur le fait que, vous savez que tous les Arabes, ils savaient qu'Allah était le créateur. On a déjà cité à maintes reprises, Amman khalaqa as-samawati wal-ard, ils savaient que c'était Allah. Donc le prophète alayhi salat wa salam ressentait ce besoin, Allah mis dans son cœur, de s'isoler. Et dans certains livres de tarikh et de sirah, on dit pendant 3 ans, le prophète alayhi salat wa salam était dans cette quête de spiritualité et de réflexion. Et pour trouver la paix, la sérénité, il devait quitter la ville de Mecca. Et il allait s'isoler dans une grotte. Alors, on demande aux petits qui sont là, vous étudiez la sirat à la madrasa? Quelle madrasa? Toi aussi? Toi, tu es dans quelle madrasa? Anas bin Malik? Je t'ai sûr. Je ne sais pas, il y avait le profil de Anas bin Malik. Tu fais Hafez? Tu vas faire Hafez, Inch'Allah. Tu vas devenir un excellent Hafez. Donc, Allahumma amin. On disait donc, oui, dans quelle grotte le prophète alayhi salat wa salam? Et il ne m'a même pas laissé compléter ma question, mashallah. C'est qui ton professeur de sirat? Moussa Brandira. Tu lui transmettras mes salams. C'était également mon professeur. On reprend donc, le prophète alayhi salat wa salam donc aimait aller dans la grotte de Hira. Quelqu'un a déjà été dans la grotte de Hira? Quelqu'un a déjà grimpé jusqu'à là-haut?
Oui, moi aussi, mais pas en haut.
Faites-le. Du sable, tous ceux qui ont la barbe un peu blanc, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup, d'accord? J'ai eu l'occasion de le faire. C'est dangereux. C'est dangereux, hein? Mais oui, non, c'est très dangereux. Mais à l'époque, il n'y avait pas le surpoids, il n'y avait pas le surage non plus. Donc, alhamdoulilah, c'était comme des gazelles, on sautait. C'est complexe. Alhamdoulilah. Donc, on revient. Le prophète, alayhi salat wa salam, s'isole dans la grotte de Hira. Et Mubarak Fawri, rahimahullah, il dit que c'était surtout durant le mois de Ramadan. Le prophète salam prenait des provisions, il y allait et il partageait ce qu'il avait amené avec les gens qui étaient de passage également dans ces régions montagneuses. Là, on passe à un autre ouvrage, un savant contemporain qui a écrit un excellent ouvrage qui s'appelle Fiqh al-Sirah al-Nabawiyya. J'ai pas trouvé l'équivalent. En parcourant avec humilité, en parcourant beaucoup d'ouvrages de Sirah, j'ai pas trouvé un livre de ce niveau. Il me semble qu'il est traduit en français. J'ai cru voir une fois une édition en français. Ce cheikh, il a pris chaque événement de la Sirah et il en a extrait des règles de conduite et des grandes leçons, exactement comme le tafsir, exactement comme les commentaires de hadith. Le cheikh dit, le fait que le prophète alayhi salat wa salam s'isolait, cette action-là de prendre un peu de recul, il appelle ça de la réflexion intelligente sur sa condition, sur le but de notre existence sur terre, sur la grandeur d'Allah. Il dit qu'on a besoin des fois de prendre un peu de temps pour réfléchir et méditer. Ne soyons pas une machine religieuse à la chaîne. C'est bien, des fois, c'est très bien, de bonnes actions, mais je veux dire, plutôt que d'enchaîner, mashallah, même c'est excellent, tahajjud, nos namaz en jamaat, notre ishraq, notre lecture de Qur'an, nos a'mal, ce qui est excellent. Mais des fois, on répète, ça devient un rituel, il faut garder, bien sûr. Mais de temps en temps, tire un temps pour réfléchir à ta condition, à ta relation avec Allah, le nombre d'années que tu as déjà passé sur terre, combien de temps éventuellement il te reste à vivre. Est-ce que si à l'instant T, l'ange de la mort venait à reprendre mon âme, déjà, est-ce que je suis prêt? Nourou est prêt? Qui est prêt? Personne n'est prêt. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt à rencontrer Allah? Est-ce que mon livret de bonnes actions est assez lourd? Est-ce que dans mon livret de péchés, il ne reste pas encore des péchés pour lesquels je n'ai pas demandé tawbah? Toute cette réflexion, c'est extrêmement enrichissant sur le plan spirituel. Et les savants disent également, le meilleur moment pour essayer de penser à tout ça, c'est l'heure de tahajjud, akhir thuluth al-layl. Dans, je ne sais plus quelle surat, on parle wa tabattal ilayhi tabtila, c'est donner du temps, consacrer le sens, on va dire le tafsir, consacrer du temps pour notre Seigneur Azza wa Jal, c'est cette méditation, cette réflexion, cette remise en question qui amène beaucoup d'humilité, beaucoup de tawadu. Ça nous permet parfois on a l'impression qu'on est au top et ainsi de suite, mais parfois ça te permet de relativiser, c'est donc une action qui est extrêmement profitable. Donc gardez à l'image le fait que voilà, de ne pas être dans l'action de façon permanente, en train de faire des amals, ce qui est très bien, mais de temps en temps, réfléchir et donner un sens à ses actions. Ça te permettra peut-être de mieux ancrer ton tahajjud en termes de ikhlas et en termes de mujahada. Drahman, pas évident le tahajjud. Pas évident. Des fois, quand on se réveille de la nuit, il est 4 heures du matin, il y a deux mawqif, il y a deux cas de figure. Soit il y a celui qui dit, ah, mashallah, 4 heures, encore une heure de temps. Quelle est la fajr ici, Montreuil? 5:15? 5:30, d'accord. Non, encore une heure de temps, 15. Donc, je casse. Mon réveil est censé sonner à 5h15. Donc, on dit, on relie Allahumma bismika mutuahya, on repique, d'accord, c'est la deuxième mi-temps de cette façon. Et après, alhamdulillah, la personne se réveille fajr, et puis c'est bon. Et puis, il y a celui qui se réveille à 4h15, qu'Allah nous accorde, m'accorde cette qualité. Il dit que, ah, subhanallah, Allah me permet d'être réveillé à cette heure-ci. Je suis exactement dans le dernier tiers de la nuit. C'est le moment le plus important. Et là, ce croyant se lève, il va faire ses ablutions, il met des vêtements propres, il se parfume, il dresse son musalla, il fait de rakat, il fait du'a, il fait zikrullah, il fait istighfar, il lit un peu le Coran, il fait des a'mal divers. Et entre autres, si on peut passer un peu de temps pour cette réflexion, cette méditation, c'est quelque chose qui est très profitable, surtout en début de journée, qu'Allah nous accorde cette qualité. Deuxième point que ce cheikh nous dit, dit que au plus profond du cœur de l'être humain et qui est associé à notre nefs, il y a des maladies spirituelles. Le cher cite Al-Kibr, l'orgueil. C'est des choses que, même si on ne l'exprime pas, mais Shaitan aimerait faire entrer ça dans notre cœur. Al-Ujb, le fait d'être fier de soi. Al-Hasad, c'est quoi Al-Hasad? La jalousie, d'accord? Al-Riya. Ria, non, ça c'est riba. Ria, c'est le contraire de la sincérité. L'ostentation. Allah barik fik, nasrallah al-afiya. Que le prophète m'a qualifié ça de petit shirk. Petit shirk. C'est subtil, c'est grave, mais ça te détruit. Et ça détruit ton lien avec Allah. En fait, j'expliquais ça à des élèves. Allahu Akbar, dans le cours de tafsir à madrasa, on faisait le tafsir de Ara'ayta alladhi yukadhibu bidin, et à la fin il y a فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Lisez le tafsir d'Ibn Kathir, c'est brillant. Enfin, Ibn Kathir est brillant. Il est brillant. Mais franchement, où il explique que tu vois, voyez, quand je sors légèrement du sujet, quand un croyant, comment, il a cité quelles sont les définitions de الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Le fait, celui qui délaisse ou qui retarde la salat ou qui fait que quand les gens le voient, et ainsi de suite. Mais il dit également cette personne qui ne donne aucune importance à la concentration, à la dévotion de la salat. Moi, je donne cet exemple aux élèves. Je dis, c'est exactement comme un détournement d'avion. C'est comme si tu prends un envol pour rencontrer ton Seigneur et il y a Shaitan qui prend et qui le détourne. Physiquement, tu es là, mais le cœur n'y est pas. Allez, on revient vers notre sujet. Donc, Allama, il dit qu'il y a wahubu dunya, le fait d'être profondément attaché au bien de ce monde. Il dit que tout ça, ce sont malheureusement des choses qui sont au plus profond de notre cœur, de notre nafs. Et c'est un combat de tous les jours de lutter contre ces mauvaises choses. Et il dit, dans cette méditation, ça nous permet de revenir à une certaine humilité. Réfléchir à sa condition humaine. Mes faiblesses, mes manquements, mes erreurs au quotidien. Et puis le cheikh dit également, concernant les problèmes, les conflits parfois qu'on peut avoir avec les autres personnes, réalise la grandeur d'Allah, réalise la clémence d'Allah, comment Allah est capable de me pardonner moi. Donc, tu relativises ton problème avec ton voisin, tu relativises le conflit que tu as avec ton beau-frère, et ainsi de suite. Tu prends des exemples. Et finalement, tu arrives. En fait, c'est une réflexion qui va déboucher vers des résolutions. Et là, tu réalises également, je mélange, je fusionne, mon père va aller un peu plus vite. Cher dit également, réfléchis beaucoup sur l'au-delà, sur le moment où tu te présenteras devant Allah. Rappelle-toi comment Allah est capable de pardonner. Ainsi, et là, je fais une petite conclusion rapide, quand tu arrives à ce niveau de réflexion et tu réalises que Allah est capable de pardonner des péchés, délivré d'actions, de péchés grands comme ça. Et le prophète alayhi salat wa salam nous a dit dans un hadith, Ar-Ruhama yarhamuhumur Rahman. Ceux qui font preuve de clémence, c'est-à-dire que ceux qui sont faciles à vivre, ceux qui pardonnent les erreurs. Il ne faut pas être un dictateur de la vie. Qu'on soit patron, directeur, ou quel que soit notre travail ou notre rôle dans ce dunya, et qu'on a des relations avec les gens. Bien sûr, il ne faut pas être non plus laxiste. Hein. L'islam, c'est une religion du juste milieu. Mais il faut arriver à un point où même dans les relations familiales, même au sein du couple, s'il y a des manquements d'un côté ou de l'autre, il y a des dérapages de langage, ça peut être lors d'un repas familial ou autre chose, c'est pas parce que quelqu'un dit un petit truc qu'immédiatement tu te replies sur toi, tu te recroquevilles et c'est fini, il cause plus avec lui, il sent plus lui, il mange plus avec lui, il veut plus respirer le même lait que lui. C'est excessif. Même si dans le conflit tu as raison et qu'il a tort, pardonnez. Car dans ce hadith, ça m'a dit que ceux qui font preuve de clémence, de bienveillance, ce sont eux qui bénéficieront de la clémence d'Allah le jour du Qiyam. Si tu es rigide, j'aime pas trop les termes modernes, mais il y en a qui parlent de psycho-rigide. Si tu es rigide, tu ne pardonnes rien. Il y a des fois où on est perfectionniste, bien faire les choses. Mais si quelqu'un sort légèrement des rails, tu le sanctionnes et puis il n'y a pas de pardon, tu le boycottes et ainsi de suite. Comment espères-tu qu'Allah ait pitié de toi ? Le jour où tes péchés seront dévoilés, c'est là que tu auras besoin de la clémence. Et le prophète m'a dit, il nous l'a dit dès maintenant, pour qu'on adapte notre comportement par rapport à nos frères et sœurs, à notre prochain. Que celui qui fait preuve de clémence, de bienveillance, qui pardonne, et ainsi de suite, obtiendra la même chose de la part d'Allah le jour du Qiyam. Tout ça, ça nous permet de reconstruire une définition de l'homme pieux. Je ne vais pas faire de caricature, je sais tout le temps, je dis à peu près la même chose, mais on a vraiment cette image, le bouzrouk, l'homme pieux, c'est, voilà, il y a mashallah, il y a la barbe, il y a toute la sunna externe, extérieure, qu'on doit mettre en pratique, ce qui est excellent. Mais maintenant, si de ton cœur, il n'y a que de la saleté, il y a de la jalousie, il y a les mauvaises pensées. Dès quand quelqu'un de la vie avance un petit peu, hein, lui, il faut trouver un moyen pour s'en aller. Que ce soit dans le commerce, que ce soit dans un couple. On voit un couple heureux. Vous savez, il y a des gens qui sont extrêmement dangereux, qui ont un mauvais œil qui est destructeur. D'accord ? Il suffit, lui il a un problème de son couple et qu'il voit un couple heureux, machin, 55 ans mariage, hein, il bataille pas, non, pas de problème et tout. Et des mauvaises pensées, tout ça c'est des saletés. Si tu as la panoplie de l'homme pieux, mais qu'intérieurement il y a tout ça, il y a un gros problème. Ou que tu as la panoplie de l'homme pieux, mais attention, comme il ouvre mon rideau magasin, Pharaon. Mon employé arrive 2 minutes en retard, que ses enfants étaient malades, l'amène madame docteur, voilà chey. Travail. Monsieur, contrat 8 heures, d'accord ? Et tu viens de faire tahajjud, fajar en jamaat, shuruq, liya yasin, il a réalisé alik. Et quand il s'agit d'un petit peu de compassion, un peu de rahma, un peu de gentillesse, un peu de bienveillance, non, c'est pas ça l'homme pieux. Donc on a besoin de revoir cette définition. Donc c'est une longue parenthèse, mais qui est nécessaire. Parce que chaque seconde de la vie de la prophète alayhi salat wa salam est un modèle pour nous. Donc le cheikh dit que en réfléchissant de cette façon, en pensant à l'au-delà, à tes péchés, à tes erreurs et à la clémence d'Allah, ben, des fois tu es capable de revenir un peu sur tes décisions un peu trop dures et de laisser un peu les motifs de conflit. Tout ça, ça va naître de la réflexion. De nos jours, nous ne prenons plus le temps de réfléchir. Vous savez, on enchaîne. Heureusement qu'il n'y a pas de métro à La Réunion. Sinon, ça aurait été métro, boulot, c'est comment on dit en France ? Métro, boulot, dodo. Mais de nos jours, là, c'est métro, boulot, dodo, Facebook, Instagram, Netflix, Prime Video, et ainsi de suite. Hasbunallah wa ni'mal wakil. C'est-à-dire que des aspirateurs de temps. Si on est dans le travail à fond, d'accord ? Travailler pour gagner son risque halal, c'est très bien. Mais quand c'est fini, un peu la famille, mais très peu, parce que magadj kao, pas le, là, fini travail toute la journée, problème avec client, là c'est bon, là, besoin de... D'accord ? Et après, et quand on n'est pas avec la famille, même pas avec les parents, wallah musta'an. Les parents te disent, viens rendre visite et tout. Non, fatigué sur le travail, fatigué, sous tension. Là, en période fiscalité, je ne peux pas, ainsi de suite. Tu peux pas. Et tu pourras quand ? Tu pourras aller leur rendre visite sur le tombe alors. Tu attends ça ? avec des regrets, des remords qu'Allah nous pardonne et nous permet d'avoir le meilleur des comportements. Donc, avec tous les aspirateurs de temps, dès qu'on a un temps libre, qu'est-ce qu'on fait? On regarde le portable, même dans les embouteillages maintenant. On regarde les notifications, on regarde ça, les nouvelles, ainsi de suite. Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Ce qui fait que ça n'arrive plus à que tu t'assoies et tu réfléchis. Quand tu vois quelqu'un s'asseoir, tu dis, bon, il perd son temps, quoi. Ou il parle un peu sur Facebook comme tout le monde. Bilax. Réfléchis, médite. Je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit, mais voilà, tout ça, c'est nécessaire. Mais ce n'est pas une réflexion bête, hein. Pour moi, une réflexion bête, c'est être zen, je médite, je respire cet oxygène qui pénètre par mes narines et qui glace mes bronches et qui me permet de vivre. Je sens la vie. Et c'est ça pour les pseudo-psychologues qui écrivent des livres pour gagner de l'argent. On laisse ça pour eux. Nous, on n'est pas dans ce truc. On ne recherche pas le green, le zen. Voilà, chez. Cette réflexion de nous permettre de nous connecter à Allah et de comprendre mon rôle sur terre, ma relation avec Allah qui transite entre autres par ma relation avec eux, avec les gens, pour devenir quelqu'un de meilleur. Naam. Ça fait deux points, il y avait un troisième, je pense qu'on l'a plus ou moins fusionné. Quand on est dans cette phase de réflexion, pense également à tous les bienfaits qu'Allah t'a accordés. Ni'matul Islam, ni'matul Iman, as-siha, la santé, l'afia, le bien-être, pour ceux qui sont mariés, avoir une épouse, pour ceux qui ont des enfants, alhamdulillah, avoir un toit, être mobile, être capable de marcher, de réfléchir. Il arrête les aliques. Du coup, là, tes tracas du quotidien, tu vas relativiser. C'est pas terrible. Et réfléchis, et le Prophète nous a dit dans les épreuves, toujours regarder ceux qui sont plus éprouvés. Et là, tu réfléchis, tu analyses, et là, tu te permets de déboucher vers une réflexion intelligente. Mais si tu es cette personne qui fonce, et qui est que dans l'action, tu vas passer à côté de certaines choses. Donc ça, c'était un enseignement qui était un peu long, je reconnais, mais je trouve ça pas mal du tout, concernant la façon de gérer son temps et la nécessité des fois d'aller vers de la réflexion dans le but de rechercher la proximité avec Allah Azza wa Jal. Hada. Je regarde juste le timing, 23 minutes. On se permet encore 2 minutes, parce qu'il y a des enfants qui ont besoin de se coucher tôt ce soir. Ils n'ont pas de madrasa demain 8h. La première révélation de le prophète, alayhi salatu wassalam, à quel âge quand il devient prophète?
À 40 ans.
Quel âge? Comment tu t'appelles?
Amir.
Amir comment? Ashfaq. Ashfaq? C'est ton fils? Non, mais c'est lourd à porter, Amir. Hein?
C'est vrai.
Amir, ça veut dire quoi? The boss. Le patron, c'est-à-dire, ah oui, contrôle. Et toi, c'est quoi ton prénom?
Kamil.
Ce garçon aussi? Mashallah, Kamil. Kamil, ça veut dire quoi? Kamil, c'est parfait. Donc voilà, il ne faut pas être perfectionniste non plus, mais chercher la perfection. Et la perfection appartient à Allah. D'accord? On fait de notre mieux. Donc, à l'âge de 40 ans, notre prophète, alayhi salatu wassalam, commence à voir les premiers signes de la prophétie. Et je ne veux pas rentrer dans trop de détails dans les commentaires, les hadiths. Il est cité qu'il y a 46 qualités qui sont propres au Anbiya, alayhim salatu wassalam. Développer ça, ça nous prendrait 10 jours. Mais peut-être qu'un jour, on aura l'occasion de voir ça dans les commentaires des hadiths. Et parmi justement les signes de la prophétie, les rêves. J'ai pas dit ça, non? Non, les rêves véridiques. Le prophète, alayhi salatu wassalam, voyait des choses donc en rêve et ça se concrétisait, ça se réalisait immédiatement. Donc c'était vraiment quelque chose, c'était pas un hasard, c'était quelque chose de concret. Et je vais un petit peu plus vite. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, va devenir prophète la nuit du lundi 21 du mois de Ramadan, ce qui correspond dans le calendrier grégorien au 10 août de l'an 610. Le 10 août de l'an 610. 610, c'est quel siècle ça?
7e.
Oui, il faut toujours ajouter plus 1. Au 7e siècle, donc le 10 août de l'an 610, notre prophète alayhi salatu wassalam va recevoir la visite de l'ange Jibril alayhi salam. Et Allah Azza wa Jal va changer le cours de ce dunya. Un dunya qui était plongé dans l'obscurité totale, dans l'égarement, où les religions qu'Allah avait révélées ont été détournées. Les livres qu'Allah avait révélés ont été falsifiés. Et que beaucoup de muwahhidin à la base, de gens qui étaient de le tawhid, de la religion d'Ibrahim alayhi salam, se sont également détournés du droit chemin. En développant, wallahu musta'an, des péchés qu'on avait vus en introduction, comment étaient les Arabes avant l'islam, et de façon globale, ce qui est intéressant, je vous invite à le faire un jour, tapez l'an 610 sur Wikipédia. Vous allez sur Wikipédia? C'est mieux qu'Instagram, je vous promets. En 610. Et il vous donne les événements de cette année dans la plupart des pays du monde, selon ce que les historiens ont rapporté. Et vous allez vous rendre compte que c'est le chaos total. Chaos, pas chaos, hein, avec C-H-A-O-S. C'est le niveau de fitna, d'égarement, d'injustice, c'est généralisé. Et ce qu'Allah Rabbul Izzah va envoyer au prophète alayhi salatu wassalam par la révélation de la sourate, le premier sourate, Iqra, ça va changer le monde. Iqra va changer le monde. Cette lumière qui va s'installer sur terre va ramener d'abord un petit groupe de gens vers le Haqq, et à partir de ce petit groupe de gens, constitué de qui? Donnez-moi les noms. Dans l'ordre, s'il vous plaît. Allahu Akbar. Khadija bint Khuwaylid radiallahu anha. Comment l'islam a honoré la femme? Première personne qui a dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, c'est une femme. Ensuite, Abu Bakr al-Siddiq, Ali ibn Abi Talib et les sahaba qu'on connaît. Un petit groupe de personnes qui vont s'imprégner de ce tawhid, de ce message de pureté, de cette lumière, et qui vont le garder avec difficulté, parce que les 13 années à Makkah, ce sont des années terribles, extrêmement difficiles, où certains ont donné leur vie, certains ont donné toute leur famille pour la cause d'Allah. On verra, ce sont des événements très durs, la famille de Ali Yasir, radiallahu anhum, c'était toute une famille où ils ont tous été torturés les uns après les autres. Ils sont morts pour la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pour la cause d'Allah. Et c'est par la grâce d'Allah, ensuite par des gens comme eux, qu'aujourd'hui à La Réunion nous sommes dans la masjid en train d'écouter un programme, parce que ces sahaba qui ont reçu cette lumière, ils l'ont gardée au péril de leur vie. Il n'y a pas eu un sahaba qui a trouvé trop difficile et qui a abandonné, abadan. Et c'est leur mujahada, leur effort, leur sacrifice, leur persévérance qui fait que l'islam s'est propagé à Mecca progressivement. Ensuite, l'islam s'est exporté à Madina. D'accord? Et ensuite, la péninsule arabe a trouvé la hidayah jusqu'à la révélation de Hidayah Nasrullahi wal Fath. Et le verset qui nous intéresse, wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna en masse, filin ilay, afwaja. Un des derniers versets que le prophète Sama a reçu, c'était le verset qui prouvait que sa mission était réussie. Donc, là, on a parcouru toute la frise chronologique. Iqra va changer le cours de l'histoire. La lumière va se propager de la péninsule arabe, va aller vers le Yémen, va aller vers tout ce qu'on appelle aujourd'hui le Moyen-Orient, va aller vers le monde entier. À partir de Iqra, le cours du monde va changer. Le regard d'Allah sur cette umma va changer également. Parce que à partir de Iqra, ça devient la umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah. À partir de Iqra, va naître la umma du prophète alayhi salat wa salam. Et la première ummati, c'est Khadija. Le deuxième, c'est Abu Bakr. Et Allah aime cette umma. Il n'y a pas besoin d'expliquer les textes et les hadiths concernant comment Allah aime cette communauté. Tout va démarrer à partir de Iqra. Et si nous respirons le tawhid, c'est l'origine, c'est la révélation de la sourate Al-Alaq. Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq. Retenez la date, 10 août de l'an 610. Et le calendrier islamique, c'est la nuit du lundi 21 du mois de... D'où la révélation Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Na'am. Qui concerne les deux révélations. Je conclue par un hadith. Le prophète avait été interrogé sur le jeûne du lundi. Là, on passe à toute autre chose. Vous savez que le prophète jeûnait 2 jours par semaine. Imtiaz. Allahu Akbar. Qu'Allah nous accepte, surtout de le mois de Sha'ban, pour être assidu au lundi et au jeudi. Faites le niya. Il se peut que quelqu'un fasse le niya sincère. Jeudi, je jeûne. La personne qui nous prévoit son iftar. Son, non, ça trop vite là. Son sehri. On peut pas faire iftar avant sehri. Il a prévu, voilà, de, je vais manger ça. Il a déjà mis de côté et tout et tout. Qaddar Allah, il ne se réveille pas. Qu'est-ce qui se passe? Il est perdant? Jamais. Il n'est pas perdant ici. Dans notre lien avec Allah, on n'est pas perdant. Abdurrahman. Allah donne la récompense. Allahu Akbar. Hadith dans lequel le Prophète me dit que quand un croyant a l'intention de faire la bonne action, Allah demande aux anges d'inscrire la bonne action. Mubasharatan al-an, tout de suite. Rahmatullah, clémence d'Allah. La richesse d'Allah, son trésor n'a pas de limite. Et s'il l'accomplit, Allah le rétribue au minimum 10 fois. D'accord? Et donc, il se peut également, vous faites une niya jeudi de jeûner. Et puis, je ne sais pas, il y a un rendez-vous médecin. Il y a un truc important, il y a quelque chose que vous savez que ça va vous demander beaucoup d'énergie et ça ne va pas être possible. Mais le niya a été fait avant. Allah te donne. Donc là, aujourd'hui, c'est mardi. Qu'Allah accepte ceux qui ont jeûné hier. Et faisons le niya de jeûner jeudi. Faisons le niya dès maintenant, 13, 14 et 15, de jeûner également. Car toute l'année, le prophète jeûnait 13, 14 et 15. D'accord? Donc, moi, Chaban, encore plus. Dès maintenant, fixons ces bonnes intentions. Donc, voilà, je me suis un peu éparpillé. On a posé la question, par exemple, concernant le jeûne du lundi. Il a dit, je suis né ce jour-là. Oui ou non? Lundi 12, Rabi'ul Awwal. Et j'ai reçu la révélation ce jour-là. Donc, c'est ce hadith qui renforce cette date retenue par les savants. On va s'arrêter à là, Inch'Allah. Et la prochaine fois, il nous restera un dars avant le mois de Ramadan. D'accord? Mardi prochain, c'est pas moi. Donc, dans 2 semaines, on fera, Inch'Allah, on verra la première révélation avec l'ange Jibril, des histoires, des situations qu'on a déjà vues après à la madrasa, mais ça va être une petite révision. Qu'Allah Azza wa Jal accepte ce majlis et nous accorde les qualités et nous permet donc de faire le niya de jeûner et de jeûner. Et Allah nous donne la possibilité également de prendre un peu de temps pour méditer, penser à la grandeur d'Allah, à notre condition de croyant et nous permet de devenir de meilleures personnes. Subhanallah, rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil izzati amma yasifun.